Les taux américains remontent. Les taux longs, notamment 4,44 sur le 10 ans. On a tapé les 5,02 sur le 30 ans américain. En général, ça fait une alerte pour Trump pour reculer. On en parlait il y a quelques instants. Mais le problème aussi, c'est que la dette publique américaine vient de dépasser les 100% du PIB. Ça fait plus de 1 000 milliards de dollars de dette à rembourser tous les ans. Est-ce que c'est un problème, Jean-Marc ?
Oui, je pense que c'est un problème parce que c'est un symbole de ce qu'est vraiment l'économie américaine. Donc les 1 000 milliards d'euros, c'est pas des remboursements, c'est-à-dire on ne rembourse pas la dette, c'est des intérêts que l'on verse.
Des intérêts, vous avez raison.
Des intérêts. Sur ces 1 000 milliards, ce qu'il faut voir, c'est que l'essentiel en plus part à l'étranger. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que l'économie américaine, d'une certaine façon, devient de plus en plus dépendante des autres pays ? Est-ce qu'elle menace, d'une certaine façon, de faire banqueroute ? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui... Alors je pense qu'elle ne menace pas de faire banqueroute, il n'y aura pas de banqueroute au sens où la dette publique ne sera pas annulée aux États-Unis. Pour une raison simple, c'est que depuis 1976, les engagements qu'on prend, ce n'est pas de donner de l'or, ce qui était le cas avant, et donc la quantité d'or était limitée, c'est de donner des dollars, et la quantité de dollars, elle, par nature, elle est illimitée. Donc les États-Unis sont en capacité de donner à leurs créanciers autant de dollars qu'ils le veulent. Le problème pour les Américains, c'est que font les créanciers de ces dollars ? Et les créanciers, ben, ils achètent les États-Unis. Alors, ils peuvent acheter des biens produits par les États-Unis, mais les États-Unis, c'est comme la France, ça travaille pas tellement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas très efficace. Et ça dépense beaucoup dans des dépenses militaires qui elles-mêmes ne sont pas très efficaces. Elles sont pas très efficaces dans la vie quotidienne de l'Américain. Elles sont même pas très efficaces dans la vie quotidienne du monde. C'est-à-dire que je pense que l'armée romaine n'aurait pas connu d'aussi longues périodes de recul, de défaite, d'interrogation sur ses performances que ce qu'a connu l'armée américaine.
Alors on a déjà eu ce débat. Vous pensez que le poids de l'industrie militaire est trop forte, notamment sur les gouvernements américains.
Par rapport aux résultats, encore une fois, depuis 1945, il n'y a pas eu de véritable victoire américaine avec un budget militaire qui fait aussi 1 000 milliards de dollars.
Mais tant qu'on prête aux Américains, il y a pas de problème.
Encore une fois, si, il y a un problème. Parce que qu'est-ce qu'ils récupèrent que font les gens qui récupèrent les dollars, que les 1 000 milliards dont vous avez parlé? Ils ne peuvent pas acheter des produits américains puisque les Américains ne travaillent pas, contrairement à ce qu'on nous dit. Donc ils achètent le patrimoine américain. C'est-à-dire, vous avez une formule célèbre de Donald Trump, il est sur Park Avenue à New York, et il sort d'un hôtel et il voit passer des Audi. Il dit, c'est insupportable. Les Allemands, c'est insupportable. Et son conseiller lui dit, mais vous savez, l'hôtel dont nous sortons, il est propriété des Japonais. Alors Trump a une réaction à la Trump, il dit, si les Allemands et les Japonais n'ont pas compris en 1945, nous sommes prêts à repasser le couvert.
C'est un pays du tiers-monde, quoi.
Ouais, c'est un pays qui est devenu un pays du tiers-monde parce que c'est un pays qui est possédé par le reste du monde, comme beaucoup de pays du tiers-monde. Et la différence entre les États-Unis et les pays du tiers-monde, c'est que les pays du tiers-monde en question, ils utilisent cet apport extérieur de fonds pour essayer de se développer. Les États-Unis, ils utilisent cet apport de fonds extérieurs pour développer une armée.
Emmanuel, vous dites que ce n'est pas un problème ?
Non, parce que je pense que la vision qu'a Jean-Marc de l'économie américaine est totalement erronée. C'est-à-dire qu'il nous dit les États-Unis, c'est un pays du tiers-monde. Moi, je dis au contraire, c'est l'éternel pays émergent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est le pays qui incarne la plasticité la plus extraordinaire du capitalisme. Regardez combien de fois on a donné les États-Unis morts depuis 50 ans face à tous leurs rivaux, face à tous leurs concurrents. Ils les ont tous enterrés les uns après les autres. Ils ont enterré l'Union soviétique. Rappelez-vous, la fin des années 80, c'était le Japon qui était le pays qui allait devenir la grande puissance mondiale. L'industrie américaine automobile était laminée, l'industrie cinématographique, etc. Ils rachetaient tous les hôtels, etc. Résultat, c'est que les années 90, ça a été la grande décennie des États-Unis et l'effondrement du Japon. Aujourd'hui, on nous dit c'est la Chine, mais la Chine, manifestement, va être vieille avant d'être riche, alors que les États-Unis ont tout pour eux. Il n'y a aucun pays qui a tout pour lui comme les États-Unis. C'est un pays qui a l'innovation. Je suis désolé, si vous prenez tous les grands indices mondiaux d'innovation, il y a sur 80 indicateurs, vous en avez 15, par exemple, dans lesquels les États-Unis sont les champions absolus sur la recherche, sur le capital risque, etc. Ils ont les marchés financiers du monde. Ils ont de la dette, oui, mais c'est les marchés financiers qui attirent l'épargne du monde entier. Il n'y a pas de marché équivalent en termes de profondeur, en termes de diversité des produits offerts. Ils ont la monnaie du monde.
Bah, donc les gens ont intérêt à investir.
Oui, bien sûr. Ils ont l'armée du monde. Ils ont une démographie qui n'est pas spécialement défavorable. Et en plus, ce qu'ils n'avaient jamais eu, quasiment depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont l'indépendance énergétique. Vous avez l'énergie, vous avez l'argent, vous avez la recherche, vous avez la démographie, etc. Qu'est-ce que vous voulez, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et vous êtes dans le pays, encore une fois, qui a la capacité d'adaptation la plus extraordinaire du monde. Reprenez l'exemple, il y a quelques villes américaines, par exemple, prenez une ville comme Détroit, par exemple, qui est l'incarnation de ces villes qui sont tombées au fond du trou et qui, en une quinzaine d'années, se sont redressées de façon spectaculaire. Vous avez cette magie américaine, entre guillemets, et à mon avis, je pense que, oui, effectivement, il faut se préoccuper de cette question de dette, mais les États-Unis sont dans une posture qui reste bien plus favorable aujourd'hui que la plupart des autres grands pays, et si je devais placer le seul euro...
Vous iriez aux États-Unis et pas à Bangalore, c'est ça ?
J'irais aux États-Unis et pas à Bangalore.
Jean-Marc, défendez Bangalore.
Ah oui, je vais défendre Bangalore parce que Bangalore crée de la richesse, alors que les États-Unis travaillent effectivement pour payer la retraite des Japonais et des Allemands. C'est-à-dire que on peut dire effectivement les Japonais, sauf que les Japonais, ils vivent grâce aux placements qu'ils ont fait aux États-Unis. Le déficit commercial des États-Unis, c'est 80 milliards du Japon, c'est 80 milliards de dollars, le déficit commercial. Et lorsqu'ils ont négocié avec l'administration américaine en disant, écoutez, on est en déficit, il ne faut pas nous mettre des droits de douane. L'administration américaine a répondu, mais les 80 milliards de dollars, c'est nous qui les payons, parce qu'on vient de faire un chèque de 120 milliards de dollars pour rémunérer les bons du trésor que vous détenez. Donc, les Américains paient pour le reste du monde. Et donc, encore une fois, cette dette, elle aurait un sens si, comme à Bangalore, elle préparait la croissance de demain, elle prépare une armée qui est complètement inefficace et incapable, pour l'instant, d'affirmer véritablement son rôle de puissance impériale.
Il est 7h19. Merci à tous les deux.